affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Sachez qu'aujourd'hui, elle sera particulièrement récompensée car nous avons la joie de recevoir pour la première fois dans notre studio Dany Laferrière. Ce sera donc une émission de présentation. Or, les présentations sont toujours des moments émouvants, des moments excitants et tant il est réjouissant de faire connaissance avec une nouvelle personne, surtout lorsque l'on sait qu'elle a de la conversation. Dany Laferrière, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Laferrière, puis-je commencer par une confidence et un aveu ? Il faut que je vous demande pardon. Je le dois parce qu'au moment de votre élection, j'ai été un temps légèrement inquiet. Rassurez-vous, ce n'est pas vous qui m'aviez inquiété, car je ne vous connaissais pas. Ce qui m'inquiétait, c'est ce que certains médias disaient de vous. Non pas que vous étiez un écrivain haïtien, cela me rassurait plutôt que cela m'inquiétait. Ce qui m'inquiétait, c'était de lire par avance que vous seriez, je cite, un académicien pas comme les autres, que vous alliez enfin faire bouger l'Académie française, que votre élection était le signe qu'enfin les choses évoluaient. Bref, vous étiez associé à toutes ces sortes d'espérances ou d'injonctions extrêmement modernes et qui m'ont fait redouter que votre élection soit le signe que l'Académie française allait y céder. Quelles injonctions ? Le goût de la nouveauté pour la nouveauté, la frénésie pour le changement, toutes ces postures qui font que notre monde réussit le tour de force assez regrettable d'allier la superficialité médiatique et la lourdeur militante. Puis rassurez-vous, j'ai moi-même été rassuré. J'ai d'abord été rassuré par votre visage découvert dans la presse, car il disait l'inverse. Il disait la profondeur et la légèreté, et aussi la bienveillance. Enfin, j'ai découvert les titres de vos livres. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, Le charme des après-midi sans fin, Les années 80 dans ma vieille Ford, Je suis un écrivain japonais, Journal d'un écrivain en pyjama, et enfin, le dernier en date, L'art presque perdu de ne rien faire. Et je me suis dit que quelqu'un, un écrivain qui trouvait des titres tels que ceux-là, ne pouvait pas céder à l'air du temps. Et comme il fallait bien commencer par un livre, j'ai choisi le dernier. L'art presque perdu de ne rien faire, et là j'ai été totalement rassuré. Non seulement vous êtes aux antipodes des attentes que certains plaçaient en vous, mais de surcroît vous êtes parfaitement armé d'humour, de finesse, de culture, bien sûr, très commun à tous les membres de l'Académie française, mais aussi, bien d'autres l'ont bien sûr, de modestie pour résister à ce rôle dans lequel on voulait vous enfermer, dans cette case dans laquelle on voulait vous placer. Voilà pourquoi je voulais vous demander pardon. Me pardonnez-vous ?
Je n'ai pas à vous pardonner, au contraire, et penser des choses est toujours excitant, ça active la conversation. Et je trouve que c'est pour cela que les médias prennent position des fois sur des sujets dont ils n'ont pas le contrôle total. Comment peut-on avoir le contrôle sur une pensée, sur un écrivain, sur sa sensibilité particulière ? Et moi, je n'écoute pas quand les gens me disent ce genre de choses. Ils me l'ont dit beaucoup et j'ai à chaque fois répondu que ma mère m'avait appris la bienséance, qu'il ne fallait pas secouer les gens, quelle idée, leur dire bonjour, s'asseoir à côté. Quand vous êtes nouveau dans n'importe quelle compagnie, n'importe quel groupe, quel salon, vous saluez les gens, vous vous asseyez, vous écoutez, pour voir un peu le dessin de cette nouvelle société, avant de dire ce que vous avez à dire.
Alors maintenant que nous avons compris que vous ne ressembliez pas, maintenant que nous avons compris que vous ne ressembliez pas nécessairement au portrait qui était fait de vous par certains, pouvez-vous vous présenter à nos éditeurs, puisque je l'ai dit, c'est une émission de présentation, c'est la première fois que vous êtes ici dans notre studio. Qui êtes-vous, Dany Laferrière ?
Oh, vous savez, il y a des dates. Je suis né en 1953 et à des lieux, même aussi à Port-au-Prince, en Haïti. J'ai passé mon enfance à Petit-Goy avec ma grand-mère, et ce qui m'a fait une enfance, j'allais dire, une parenthèse de bonheur. Et malgré le fait qu'on était sous une des plus sanglantes dictatures de la Caraïbe, celle de Papa Doc, j'ai rejoint ma mère à Port-au-Prince, mon père étant exilé et déjà lui-même contestait le régime. Et puis après toute une série de carambolages, dont la mort de mes camarades qui a été tué par les tontons Macoutes, je me suis retrouvé à Montréal, et où j'ai vécu, travaillé au début comme ouvrier et dans différentes usines pendant 8 ans. Puis un jour, je me suis acheté une machine à écrire, une Remington 22. Et j'ai écrit mon premier roman dont le titre est celui que vous avez cité tout à l'heure avec bienveillance, et comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Naturellement, je ne pensais pas, avec un titre pareil, me retrouver à l'Académie française. Donc je ne peux en aucun cas vouloir secouer des gens qui ont admis un tel individu dans leur sein.
Oui, du reste, c'était d'ailleurs doublement choquant de dire que vous étiez un académicien pas comme les autres. D'abord, c'est porter un jugement un peu hâtif sur vous-même, et puis c'était aussi penser que les autres n'ont pas leur propre singularité, ce qui est un petit peu étonnant. Ce qui fait la richesse de l'académie, c'est justement d'être extrêmement diversifié, non ?
Non, ils sont tous pas comme les autres.
Ben, c'est ça.
C'est pas très grave, ce genre de choses. Je suis habitué à être mal vu. J'écris pour rectifier. C'est comme ça, j'ai fini par écrire 23 livres.
Lorsque vous êtes défini, dès la deuxième phrase, il était question de votre grand-mère. Alors, je me suis interrogé, on définit souvent, voilà, écrivain haïtien qui était à Montréal, vous l'avez fait vous-même. J'ai eu l'impression, en lisant votre livre, L'art presque perdu de ne rien faire, qu'au-delà d'Haïti ou de Montréal, ce qui pouvait vous définir, ou ce qui était votre vraie patrie, c'était l'enfance. Est-ce que je me trompe ? Il y a une référence assez fréquente à l'enfance, mais même fait penser à une phrase de Brel. On lui demandait, mais alors c'est quoi d'être belge, c'est quoi ta patrie, tu en parles souvent. Il avait répondu, oui, je peux peut-être être patriote, mais alors c'est très simple, ma patrie c'est l'odeur des confitures de ma grand-mère. J'ai retrouvé quelque chose comme ça dans vos écrits.
Oui, enfin, vous savez, je l'ai souvent dit, durant mon enfance en Haïti, où j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre, c'est-à-dire de respirer l'odeur de la terre après la pluie, de voir le vol des papillons, de sentir la mer, et la pluie, enfin, toutes ces petites choses, les papillons, encore une fois. Et ce sont des choses qui reviennent sans cesse, comme une ritournelle, et dans mes livres aussi, et ma grand-mère avec sa cafetière, qui boit du café, et qui m'ont structuré, qui ont fait ma sensibilité. Mais je ne peux pas dire que ce soit la seule chose, puisque si j'identifie mon enfance à ma grand-mère, mon adolescence est avec ma mère, et qui est une autre forme. Autant ma grand-mère était ouverte, parce qu'elle s'asseyait face à la mer des Caraïbes, autant ma mère, je la retrouve enfermée dans une maison, son mari étant exilé très jeune. Elle-même était très jeune quand mon père est parti. Et c'est quelqu'un qui vivait un peu avec beaucoup d'angoisse, angoisse pour ses enfants, surtout pour son fils, moi, qui commençais déjà à écrire et qui allait sûrement me retrouver sur les pas de mon père. Et puis ma sœur, qui était avec moi et qui, au moment où je sortais, j'ouvrais la porte pour sortir, quitter les jupes de ma mère, qui, elle, est restée. Et comme elle avait aussi un goût pour l'art, et j'ai toujours été peiné du fait qu'elle n'ait pas connu la nuit. Parce que la nuit pour Port-au-Princienne est chargée de revolvers. Et ce qui fait qu'on interdit plus facilement aux femmes de sortir. Et depuis cette situation, chaque fois que je vais dans une ville, pour savoir l'état des choses réelles, c'est si je vois des femmes la nuit. Et c'est terrible, ma sœur aurait pu devenir quelqu'un d'autre si elle avait connu la nuit. Et c'est une zone du jour qui a son rythme particulier, qui a son carnaval très, très spécial. Et c'est une sorte de fête étrange et qui permet aux gens de sortir d'eux-mêmes et de devenir, de prendre des figures et complètement différentes et, du jour. Et quand on n'a pas connu cela, et il manque quelque chose à notre sensibilité. Donc ce sont des choses qui m'ont formé. Et puis à Montréal, j'ai connu quelque chose aussi d'assez et nouveau, et c'est le travail, que je ne connaissais pas en Haïti, puisque en tant que jeune intellectuel du tiers-monde, et généralement, c'est les femmes qui s'occupent de la vie quotidienne, jusqu'à ce qu'on ait un emploi, souvent, et dans l'État. Et là, j'étais réduit à travailler moi-même à l'usine, et j'ai vite compris que c'était quelque chose d'extrêmement important. Il fallait bien que je sache que ce qui m'entoure et le fait de gagner ma vie par moi-même était important pour mon devenir d'écrivain. Et on ne peut pas être écrivain si on ne connaît pas le prix des choses. Et puis, encore mieux, j'habitais dans une chambre tout seul, il fallait que je fasse à manger. Et en apprenant à faire la cuisine, et j'ai compris, je crois que c'est la plus grande leçon d'écriture que j'ai eue. Et parce que faire la cuisine ressemble beaucoup à écrire. Que ce soit le fait de mettre des aliments dans une chaudière d'eau qui ont des goûts différents pour qu'ils aient à la fin un goût unique, de mettre les épices qui ressemblent bien au style, au travail que l'on fait après avoir écrit et le premier jet, et mettre les épices, de goûter sans cesse qui ressemblent à nos angoisses particulières. Et l'écriture, c'est une affaire artisanale. Il faut savoir soupeser chaque phrase, prendre son goût dans sa bouche, des fois, la dire même à haute voix. Et j'ai trouvé que la cuisine était très proche de l'écriture. Et j'ai compris que j'étais écrivain, parce que tout ce que je touchais, j'en faisais référence à l'écriture.
Puisque vous parlez de cuisine, il y a un passage dans le livre... Vous expliquez qu'il y a eu des moments dans le temps où c'était la civilisation Louis, celle de la vue, et que vous attendez avec impatience celle du goût. Vous pensez qu'elle sera, je ne sais pas, plus délectable, cette civilisation du goût ?
Je ne sais pas, c'est vrai que le regard a pris une importance énorme. Nous sommes assis devant la télévision, devant... l'Internet depuis quelques décennies maintenant. On a beaucoup utilisé nos yeux et quand on entre dans un tunnel de sens comme ça, quand on n'utilise qu'un seul, on oublie les autres. C'est vrai que Louis n'est pas loin aussi. Et ce que nous entendons, ce sont des choses extrêmement artificielles, technologiques. Nous sommes entrés vraiment dans cette fiction un peu médiocre, mais le goût demande une activité personnelle et, vous savez, agit sur des nostalgies olfactives et en même temps aussi du goût, des papilles gustatives, des choses qui datent de l'enfance. On a connu les madeleines, la madeleine de Proust, et on sait bien, pour moi, modestement, ce serait l'odeur du café. Et on sait bien que le goût fait appel à quelque chose, à un univers intime et particulier, beaucoup plus qu'à ces univers excessivement industriels qu'on nous offre. Et c'est pourquoi j'attends la civilisation du goût, où ça demande une activité personnelle et des fois ça demande presque une intrépidité. Parce que on vous propose des choses à goûter, vous avez peur, vous y allez et vous aimez ça. Et vous découvrez qu'un aliment, par exemple, peut avoir un aspect rébarbatif, et puis quand vous y goûtez, et vous le trouvez complètement différent, léger, agréable, plaisant, et des choses comme ça. Donc c'est une très grande éducation, celle du goût.
Le goût demande du recueillement aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un fil rouge qui traverse votre livre. C'est la volonté de voir le temps se suspendre un petit peu, de reprendre le temps, d'apprécier, de goûter, de sentir... Alors qu'effectivement, les images se succèdent, je ne sais plus à combien par seconde pour faire un film. Louis est devenu le réceptacle, à vous croire, et puis on l'expérimente nous-mêmes, quand même surtout du bruit. Alors que le goût, c'est... On se met en retrait pour goûter, non ?
Oui, absolument. Et puis aussi, on peut voir les choses de façon très globale, d'abord, avant de détailler. ce qu'on nous vend dans les autres sens qu'on exploite de manière industrielle. Hein, chacun de ces sens-là est égal à l'autre, en fait. L'ouïe, comme la vue, l'odorat, ce sont des sens autant intimes que le goût, mais on est parvenu à les commercialiser à outrance. Oui, ce sens du temps arrive au moment où j'écris ce livre, où l'Académie aussi, et c'est ce qui m'a plu à l'Académie, c'est précisément ce temps suspendu. Je reviens là d'une réunion, celle du jeudi, où on a causé dictionnaire. C'était plaisir de voir tous ces gens extrêmement instruits d'un certain âge et qui se réunissent pour converser autour de significations de mots. Et au début, ça paraît toujours une cérémonie assez étrange, jusqu'à ce qu'on découvre non seulement la grande singularité, mais aussi la structure profonde. Le langage est touché, donc l'individu est touché, et jusqu'à ce qu'on découvre que les mots anciens, les définitions anciennes dont on dit qu'elles sont passées, dépassées, vieillies ou autres, et qu'on rattrape parce qu'un écrivain l'avait écrit dans un livre il y a 2 siècles, et fait qu'on remue le temps, un temps concret, un temps fait de siècles. Et on le remue pour que le mot, lui, arrive et dans son immédiateté. Ce mot-là, on va s'en servir, les gens vont s'en servir, et ils ne se demanderont pas la question du temps qu'a traversé. Et ce mot-là, on l'a fait pour eux, et ils vont s'en servir comme des aliments. Ils vont le goûter et ils vont s'en servir. Et parce qu'un mot peut être bon à la bouche. Donc des choses si abstraites qui deviennent carrément concrètes. Et parce qu'il y a une quarantaine d'individus qui ont passé leur jeudi après-midi à jouer avec.
Vous avez dit un mot qui est bon à la bouche. On retrouve encore le goût, alors?
Ah ben tout à fait. Ah oui, tout à fait. Les enfants savent ça. Les petits-enfants qui ont 3, 4, 5 ans, ce sont les maîtres. Dès qu'ils touchent quelque chose, ils l'amènent à la bouche. C'est leur façon d'avancer dans le monde. C'est la façon de se repérer. Ils avancent avec le premier sens à qui il suffit, aveuglement, et c'est la bouche. Naturellement, les mamans se précipitent pour leur enlever ça de la bouche, mais on devrait savoir que c'est un animal qui est un peu dans ce tunnel du goût, et il ne suffit pas, parce que le regard est organisé, et les sons sont assez bien organisés, mais la bouche est à l'enfant. Et c'est comme la canne de l'aveugle.
Il y a deux âges qui sont très présents dans le livre, je trouve. Et c'est pas forcément la tendance la plus actuelle. Votre livre est constellé de références, d'une part à l'enfance, d'autre part à l'âge avancé. C'est-à-dire exactement les deux types d'âges qui n'ont plus tellement de place dans notre société parce qu'ils ne sont pas très utilitaires. Les enfants, ça ne sert pas à grand-chose, ça n'est qu'en devenir. Et puis les personnes âgées, ça devient même embarrassant.
Oui, c'est les deux grands philosophes. Parce qu'ils ont le temps à eux. Ce n'est pas un temps commercialisé. Et l'enfant, tout jeune, et puis le vieux, et ils aiment bien converser et ils ont des énergies complémentaires. L'un est enthousiaste, va à la découverte, et l'autre essaie bien de montrer le chemin tout en sachant qu'il n'y a pas de chemin à montrer. Très bien. Donc ce qui en fait...
Ils ne sont pas dupes.
Oui, ils sont dans l'inutile, ils sont dans quelque chose qui n'a aucune immédiateté, qui se fout du temps. Et l'un, parce qu'il n'a aucune idée du temps, le temps est devant lui, derrière lui, et l'autre, parce qu'il en est si conscient qu'il a préféré, par sagesse, ne plus s'y intéresser. Et se plonger, non pas dans le temps, mais dans l'énergie de cet enfant qui voit. Donc ce qui en fait des causeurs formidables. D'ailleurs, on les voit souvent sur les bancs publics à converser.
On sent aussi que
le temps des adultes, celui de la vie active, le temps dicté par la société, par tout ce qui est utile, nécessaire, sans moins vous intéresser, voire même une forme de défiance, et vous avez envie de vous en protéger. Est-ce que vous pensez qu'il y a une dérive de notre société qui n'arrive plus à prendre le temps, qui s'auto-illusionne, qui donne de l'importance à ce qui n'en a pas? C'est ce qu'on ressent en tout cas.
C'est vrai qu'on est fatigué. Et nous sommes dirigés par des gens extrêmement épuisés, qui sont fatigués, qui ont mal dormi, à qui on demande mille choses et qu'on surveille. Et nous-mêmes, les individus, nous sommes extrêmement fatigués, nous sommes poussés, stimulés par des choses et dont on n'a aucune conscience. Il suffit de voir ça sur la route. Hein. Quelqu'un qui n'a pas dormi, qui a trop bu, et c'est normal qu'il y ait accident. Et nous sommes des accidentés, nous n'avons pas vu un peu l'impact, mais nous avons été frappés. Nous entrechoquons, puisque nous n'avons pas fait, il n'y a pas d'espace, ce sont des couloirs. Alors il suffit que deux personnes se retrouvent face à face dans un couloir, et c'est ça qui arrive quand il n'y a pas de vision large du temps. Quand on n'est pas... Vous savez, c'est pas normal, les villes, les grandes villes comme ça, compressées. On fait avec, parce que c'est comme ça. Nous vivons l'un proche de l'autre, nous avons nos familles, nos amis, nous voulons tout avoir aussi. Et puis aussi, c'est là que les humains ont voulu vivre. Mais autrefois, ils plantaient leur ville à côté de l'eau, près de la mer, près d'une rivière, près d'un fleuve, et parce qu'ils voulaient voir un peu le large. Mais maintenant, il n'y a que les gens très riches qui peuvent avoir des possibilités comme ça, de voir le large. Donc, c'est des individus qui vivent sans avoir jamais vu le grand espace. C'est normal qu'ils ont un esprit un peu qui ne voit pas plus loin, et qu'ils s'entrechoquent, et qu'ils... c'est très épuisant à la fin. Donc on se demande, moi je ne cesse de dire comme ça, et je veux dire, si on pouvait arrêter un moment, on va vers un mur. Et on est nombreux à y aller comme ça, vers un mur.
Et à le ressentir, non ?
Eh bien non, on se frappe et puis on continue à se frapper la tête, comme dans les jeux qu'on voyait autrefois dans des émissions, où des gens comme ça qui se frappent la tête, qui veulent traverser le mur alors qu'il fallait peut-être contourner, ou bien aller voir ailleurs. On redit les mêmes choses sans cesse et en l'impression que en refaisant les mêmes gestes, en redisant les mêmes mots, on finira par imposer une évidence. Puisque tout le monde le dit, donc ça doit être vrai. Donc il y a mille façons de se frapper la tête contre un mur et il n'y a pas de vision longue.
Ou de vision lente.
Ah ben oui, ça c'est lié pour voir le grand espace. Il faut quand même et pas le faire tout en sueur en courant. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir sous un arbre, si possible. Il faut s'asseoir sur un banc. Et ne penser à rien au début, et laisser venir.
Vous savez, il y a un mouvement comme ça qui se développe aujourd'hui, un petit peu en marge de notre société, mais en son sein aussi. Mouvement, je suis désolé, c'est un anglicisme, une radio des académies, mais le mouvement slow. Qui a commencé d'ailleurs par le goût, parce que ça a commencé par le slow food, je crois, en Italie. Reprendre le temps de manger tranquillement, de retrouver le goût de chaque aliment. Et puis ensuite, ça s'est étendu. Slow food, slow life, slow management. Et même maintenant, je crois aux relations sexuelles. Voilà, il faut reprendre le temps de redécouvrir l'autre, de l'honorer sans précipitation, de le redécouvrir. Donc ça doit être quelque chose qui est quand même partagé aujourd'hui, ce refus de cette frénésie et d'être emporté par ce tourbillon utilitaire tendu vers la performance.
Ah oui, il y a toujours été, ça a toujours existé chez les gens, et ce que nous avons fait de nous-mêmes et ce que nous voudrions être en réalité. Et cette tension-là est tout à fait humaine. Je ne sais pas s'il y a ça chez les autres animaux, mais chez les humains, on a toujours eu cette tension. Et oui, ce mouvement, et pas seulement manger lentement, mais surtout cuisiner aussi lentement. et prendre le temps et une dimension. C'est vrai, quand on voit, si on reprend l'image de l'enfant qui met tout à sa bouche, avec une mère qui la protège, qui enlève les choses qui peuvent blesser, eh bien après, nous mangeons sans protection. Sans protection. Nous achetons des choses avec le mort, nous n'avons jamais vu un poisson avec son corps entier. Nous y allons aveuglément à des gens à qui nous n'aurions pas confié quoi que ce soit. Nous ne les connaissons pas, nous ne les avons jamais vus. Il y a aussi cette confiance aveugle qui n'est pas une vraie confiance. C'est pas parce que nous avons bien estimé la chose et que nous faisons confiance. C'est parce que cette confiance est liée et au temps. Nous n'avons pas le temps de vérifier. Nous ne voulons pas prendre ce temps-là parce que c'est impossible, c'est invivable. Comment voulez-vous que je sache tout ce que je mange ? Eh bien, on devrait. C'est ça qui n'a pas été dit, c'est qu'on devrait. Et c'est tout simple. C'était tout simple de regarder ce que nous faisons, pas seulement ce que nous mangeons, ce que nous faisons de nous-mêmes. Moi, l'autre jour, j'ai pensé à ça, j'ai dit, mais je ne comprends pas que l'être humain ait pu vivre tout ce temps-là, qu'on ait pu, là, en ce moment, vivre 80 ans facilement. Ce qu'on fait avec le corps, cette violence qu'on lui fait subir, violence intellectuelle, violence morale, violence sociale, violence économique, violence alimentaire, violence, c'est une machine résistante. On dirait même plus on lui fait violence, plus elle résiste. Peut-être c'est la seule leçon, disons, agréable, positive dans cette affaire, c'est que cette machine est ainsi faite, ou ce corps, cet organisme est ainsi fait, que plus on lui fait violence, plus elle résiste, plus elle dure. Mais est-ce pour une qualité de vie ? Ça, c'est autre chose. Il ne suffit pas de vivre longtemps pour bien vivre.
Oui, c'est ce que vous dites, notamment lorsqu'il y a un discours de commisération sur l'espérance de vie plus faible dans le tiers-monde. Le sentiment de, oui, je ne sais pas comment le définir, de pitié, de compassion, d'empathie. Il peut y avoir des choses positives, malgré tout, dans ces sentiments-là. Mais vous rappelez qu'il faut leur dénier le droit de juger, parce qu'une vie peut être plus courte et plus intense, et que finalement, une vie, ça ne se calcule pas en nombre d'années, mais peut-être aussi en qualité. Mais on retrouve probablement le fond du livre. Le livre, c'est un plaidoyer pour la qualité contre la quantité, non ?
Oui, tout à fait. Et surtout aussi, on ne peut pas prendre la place de l'autre, habiter le corps de l'autre comme ça. Et on a fini par le faire carrément dans des discours PIB, PNB, espérance de vie et tout, et par déclarer que telle société, la vie est inacceptable, invivable, et qu'il mène une vie presque animale et tout cela. On ne peut pas dire des choses comme ça. Et parce qu'il manque toute la part de sensibilité, toute la part... Mais c'est un acte intime, vivre, quand même. C'est un acte intime, c'est aussi intime que mourir. On ne peut pas organiser ça comme ça, dans des discours, et dans des analyses, dans des enquêtes rapides. Après le tremblement de terre de Port-au-Prince, beaucoup de journalistes à chaque année et disent que, bon, où en est la reconstruction à chaque année, dès la première année. Mais nous savons très bien qu'on ne peut pas reconstruire une ville entière en un an, en deux ans. Et jamais aucun journaliste ne s'est demandé comment ça se fait qu'il n'y a pas un fort taux de suicide après un tel événement. Où 300 000 personnes ont disparu, des gens qui étaient proches, des familles entières. Pourquoi il n'y a pas des pillages massifs ? Pourquoi il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'un désespoir collectif ? Au contraire, quand ils vont en Haïti, ils se demandent d'où vient cette énergie, qui, on dirait presque radioactive. On dirait qu'elle vient de la terre qui a tremblé. Et donc, ça veut dire... Peut-être que les Haïtiens, qui sont plus experts en reconstruction humaine, ont allé de ce côté-là d'abord, avant de reconstruire le matériel.
J'ose à peine vous poser la question, car je prends envie de vous ramener sans cesse à Haïti. Vous avez dit par ailleurs que ça devenait pathologique de ramener sans cesse les gens à leur identité aujourd'hui. Je partage votre avis. même si je pense aussi qu'il est assez pathologique de vouloir tout le temps la nier. Parce qu'après tout, finalement, on est aussi le fruit de nos expériences, de nos racines. Vous le dites à un moment, voilà.
C'est le mot que je conteste. Quand il est employé de manière impudique, en fait, on n'a qu'à laisser la personne parler et puis on verra
tout. Et être ce qu'elle est, voilà. Toutefois, il n'en reste pas moins qu'en lisant vos livres, celui-ci en particulier, on se dit qu'effectivement, il y a quelque chose de spécial en Haïti, une énergie particulière, peut-être, certainement, même due à son histoire, à une identité qui n'est pas fixe et qui est donc dynamique, qu'il faut sans cesse réinventer, cultiver, projeter vers l'avenir. Est-ce que je fais fausse route ou il y a
de
ça ?
Non, pas du tout. Je crois que j'en donne des exemples pourquoi cette identité est si solide. L'exemple du trépied, c'est parce qu'elle est assise sur un trépied solide. L'histoire, vous avez dit, l'indépendance d'Haïti qui a été faite contre une colonisation très dure, la langue créole qui était là dans le cœur même de ce combat. Et le vaudou comme religion aussi à l'époque, une des rares qui était part de résistance dans ce combat aussi. Donc en effet, il y a un trépied dans cela. Mais ce qu'il faut dire aussi à propos des Haïtiens, c'est la qualité de vie aussi. Et c'est une très très grande qualité de vie et qui n'est pas fondée précisément sur cette vitesse, ce tunnel qu'il y a dans une société beaucoup plus commercialisée. Et sur un point de vue culturel, par exemple, à la radio haïtienne, moi, j'ai jamais entendu parler de quota, tel type de musique, ou bien encore d'une radio qui serait dirigée sur un type d'âge donné, et parce qu'il n'y a rien à vendre. N'ayant rien à vendre, puisqu'on n'a rien, n'ayant rien à vendre. Donc
c'est épargné par le marketing, ça n'existe
oui, pas. Oui, toutes ces histoires que l'on croit très naturelles, comme des découvertes sociologiques, ce sont des trucs liés tout simplement au commerce. Et on vise les gens à qui on veut vendre des choses. Alors, quand on n'a pas ça, et je l'ai écrit dans ce livre-là, presque perdu, je crois, ou peut-être tout bouge autour de moi, que n'ayant plus d'endroit fixe, puisque après le tremblement de terre, les Haïtiens ont choisi d'habiter le moment au lieu d'habiter un lieu. Et c'est pas du tout une formule ni une phrase. Je l'ai vu puisque Port-au-Prince était brisé. Et les gens, il faut imaginer que vous pouvez marcher dans la rue, vous sortez dans Paris brisé complètement. Et puis à n'importe quel moment, vous pouvez vous asseoir et déclarer que c'est chez vous. Vous conversez avec des gens que vous rencontrez, vous évoquez vos douleurs, vos joies. Vous êtes là. Et il n'y a pas un moment, à ce moment-là, j'étais à Port-au-Prince au moment du tremblement de terre, quelqu'un ne veut pas se lever et dire « je rentre à la maison ». Cette phrase qui définit l'être humain dans une ville organisée. Donc, il habite le moment. Et c'est s'ils n'étaient pas, disons, armés bien avant, ça pourrait rendre fou. Mais n'ayant rien eu presque à perdre, puisque n'ayant rien, ils étaient, disons, en pleine capacité d'affronter ce désastre. C'est-à-dire, il faut le dire aussi de manière, c'est pas un éloge de la pauvreté, je parle plutôt de ce qui vous arme quand vous n'êtes pas saucissonné par le commerce. C'est dans ce sens-là. Et dans la vie quotidienne, dans le quotidien normal, ce n'est pas bien de vivre dans une situation où l'on est si démuni. Mais quand une réalité, une catastrophe fait qu'on se trouve dans la situation où on n'a rien, eh bien on est mieux armé. On le voit, il suffit d'avoir une panne d'électricité à Paris qui dure 4 heures pour que vraiment la ville se trouve dans une situation difficile. Quand on pense que on n'a pas d'électricité en continu depuis près de 40 ans à Port-au-Prince. On a de l'électricité, mais par tranche, par quartier. tranches de 4 heures, des choses comme ça, mais on ne l'a pas en continu 24 heures sur 24, sauf peut-être pour ceux qui autrefois habitaient dans l'aire du Palais National, puisque c'est une zone qui doit avoir l'électricité. Alors, eux qui sont souvent des quartiers pauvres aussi, ont bénéficié de cette chose-là. Mais sinon, on ne l'a pas, mais on continue à payer l'électricité. Comme disait ma mère, ce pays est complètement absurde, puisque le bordereau d'électricité venait, et ma mère se fâchait, disant aux jeunes garçons qui apportaient le bordereau, mais vous ne pouvez pas me demander de l'argent quand vous ne proposez pas, vous n'avez pas de produit à proposer. Et le type dit, oui, mais si jamais l'électricité vient un jour, il faut qu'il y ait des gens employés déjà, et il faut payer ces employés-là. Mais il parlait comme si l'électricité allait descendre du ciel, ou je ne sais pas. Et ma mère m'a dit, mais oui, c'est un raisonnement, oui, assez solide.
Quand vous parliez de la ville par terre et des gens qui ne pouvaient plus savoir où ils habitaient, et aussi de la capacité du coup à déporter peut-être le regard sur des petites choses, des instants, des moments... d'autres formes d'émerveillement qu'on retrouve à beaucoup de pages de votre livre. Vous en parlez tout à l'heure. Une libellule, un papillon, une odeur. Ça m'a fait penser à un roman de Marcel Aimé, Uranus, pour ne pas le citer, où un des personnages, justement, lors de la libération, bombardement américain, son immeuble tombe par terre, et il se ressource sans cesse, justement, dans ces instants. Et ces petits moments d'émerveillement qui finalement, dit-il, font la beauté de la vie. Et c'est peut-être une des leçons aussi de votre livre, c'est qu'à beaucoup de pages, vous focalisez sur l'instant, et on a l'impression que l'univers entier et sa beauté est contenu dans cet instant. C'est-à-dire que comme si pour atteindre l'universel et la vérité universelle, plutôt que des grands mots, il fallait décrire... une petite fille qui cueille une fleur, le vol d'une libellule, la découverte de la couleur rouge, ce genre
absolument,
de choses.
Absolument, bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est là que ça se passe. Je crois que dans cette absence d'abondance, il y a des instants poétiques. Et mieux encore, nous devenons poétiques. Et notre regard arrive à capter des choses que nous ne pouvions capter avant, puisqu'on avait l'impression que tout était à nous, nous était offert, et on réclamait aussi ce qu'on ne nous donnait pas sans cesse. On n'avait pas vu des petites choses qui... complètement sous nos yeux frétillait d'énergie. Et l'une des grandes leçons politiques que j'ai reçues, elle vient de l'enfance et de ma grand-mère, de la voir offrir une tasse de café les après-midi aux gens qui passent devant sa maison, et de la voir causer avec ces gens après, puisqu'après avoir bu son café, l'homme remercie et commence une brève conversation, comme nous faisons là. Nous causons. Et de voir en même temps comment elle arrive à savoir comment les gens vivent. Et qu'elle a fait un réseau de cela, un réseau d'informations. Parce que étant informée sur tel individu, elle en parle avec un autre. Si elle pense que la personne a besoin d'être aidée, elle signale que son voisin est malade, ce qu'elle sait, alors que l'autre qui habite à côté ne le savait pas encore, puisque ne l'ayant pas demandé, n'ayant pas offert de café. Le café qui délie les langues. Et je me suis arrivé à la conclusion que le monde tel que nous le vivons pourrait bien sûr s'améliorer si l'on retrouvait le sens de la conversation, le café, et qui excite l'esprit, et une conversation, un après-midi, un visage bienveillant et serein comme celui de ma grand-mère, et quelque chose qui ne sont pas de l'information, c'est-à-dire on s'en sert pas personnellement, mais de l'ordre d'un réseau d'énergie dans une ville servant à reconnecter les gens entre eux par la simple parole. Donc je me suis dit, ma grand-mère avait quand même découvert le plus haut niveau de culture que je connaisse, offrir une tasse de café et un peu de conversation à quelqu'un qui passe.
pour... C'est une belle leçon, mais comment faire un principe? Comment l'organiser? Quels sont les verrous à faire sauter? Je suis désolé, j'ai l'air de vous proposer un programme politique du coup, mais c'est pas gagné quand même.
Oui, mais il y a beaucoup plus de gens qui le font sans que l'on sache. Et je ne sais pas, c'est peut-être pas dans ce livre, mais j'en ai parlé. Et dans d'autres livres de cette alternance, de cet équilibre constant qui se trouve dans la société en général, à celui qui pointe un revolver vers vous, il y a un autre qui vous offre un fruit. Et si les gens ne se lèvent pas et ne se sautent pas au cou, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens et qui travaillent en dessous à maintenir cet équilibre. On ne les voit pas. Mais un pays, par exemple, comme Haïti, j'y reviens, avec une situation économique si difficile, une situation politique si instable, l'impression qu'une épidémie peut à chaque moment traverser le pays, puisque la condition d'hygiène est déplorable. Et tout cela, alors comment ça se fait que ça se tient au point qu'il s'intéresse beaucoup à la culture ? Qu'il y a toute cette peinture populaire en plus, et toute cette musique populaire en plus, cette poésie, et poésie qu'il y a dans le texte, mais poésie qu'il y a dans la façon dont les gens ont de communiquer, de vivre ensemble, de s'habiller, l'élégance, cette grâce. Et comment ça se fait? C'est parce que précisément, et les réseaux sont mieux soutenus et communiquent mieux que l'on croit, que l'on ne croit. Et il y a des choses souterraines qui se font et permettent l'équilibre. Il y a aussi des angoisses qui sont apaisées. Je me souviens, quand j'étais enfant, on parlait encore de la bombe atomique, et je disais à ma grand-mère, mais si jamais le président des États-Unis ou le président de la Russie, à l'époque, le premier ministre, ou le président de ces deux pays-là, pesait sous le bouton, on disait qu'il y avait un bouton où l'on pouvait peser, et puis la planète saute. C'était ça, l'information qu'un enfant avait.
Et m'en souviens.
Oui. Et ma grand-mère m'a dit, mais non, rassure-toi, il ne peut pas peser sur le bouton. Et je lui ai demandé, mais pourquoi il ne peut pas? Elle m'a dit, il ne peut pas parce que c'est comme ça. Il ne peut pas. Ce n'est pas lui qui peut faire sauter la planète, il ne peut pas peser sur le bouton. Ne t'inquiète pas. Il y a un bouton, mais il ne peut pas peser sur le bouton. C'est quelque chose qui paraît très étrange comme réponse, qui ressemble d'ailleurs à celle qu'elle m'a donnée quand je lui ai demandé c'est quoi la mort. Elle m'a répondu, tu verras. C'est pas du tout une sorte de... qu'elle croit dans l'avenir, qu'elle croit dans le positivisme. C'est qu'il ne peut pas poser sur le bouton. C'est ça la réalité des choses. Il y a des forces, il y a des énergies qui fait que le sort du monde ne peut pas se retrouver sous le doigt d'un seul être. C'est comme ça.
J'aimerais vous croire, j'aimerais croire à votre grand-mère. J'aimerais penser qu'il y a une force, je ne sais pas si vous exprimez quelque chose de l'ordre du vaudou
non,
ou d'autres choses,
en fait.
Mais je m'y remettrais volontiers.
Il n'y a aucune métaphysique même là-dedans. C'est physique. Il ne peut pas peser sur le bouton. N'ayons pas peur. Il ne peut pas. Il se passe d'autres choses. Nous pouvons nous pousser à des extrémités terribles. Il y a près de 60 guerres qui se font, et petites guerres sur la planète en ce moment même. C'est énorme. Et peut-être une dizaine dont on ne s'occupe plus. Non, c'est le monde est un vaste champ de bataille et de carnage. Mais aucun être humain n'a le droit, n'a la possibilité, ne peut peser sur le bouton qui fera sauter la planète. Et je crois qu'on devrait le croire parce que ce que ma grand-mère dit, et parce que si on ne croit pas, il pourra faire sauter la planète. C'est ça le danger.
Je vais m'y appliquer alors. Toutefois, il se passe quand même des choses effroyables. Votre livre est très léger, très, très élégant, du coup, il n'y a pas cette forme de gravité et de lourdeur, souvent militante, didactique, qu'on peut retrouver dans beaucoup de publications aujourd'hui. Mais il décrit quand même des choses effrayantes. Moi, personnellement, il y a un passage qui m'a absolument terrifié, même, je pense qu'il évoquera beaucoup de choses à nos auditeurs, du moins ceux qui ont des enfants, et c'est celui qui est relatif à la façon dont les enfants sont captés par les écrans. Je me permets de lire ce passage. L'enfant devant la télé donne dos à tout. C'est à son dos qu'on parle et c'est son dos qui nous répond. Il ne daigne pas se retourner et n'entend même pas la voix qui s'adresse à lui. Il est ailleurs, chez l'oncle Walt. L'enfant qui regarde par la fenêtre, un jour de pluie, découvre la solitude, ce sentiment si humain qui nous rend pourtant uniques et qui surtout fait peur à ceux qui voudraient nous distraire. On rit avec les autres, mais on s'ennuie seul. Et cette solitude semble la source de notre dignité. Alors peut-être que l'être humain n'a pas le pouvoir d'appuyer sur le bouton, mais enfin, il s'est passé d'autres choses qui peuvent nous ravager, hein, visiblement, quand même.
Ah ben oui, bien sûr, on est ravagé, il y a beaucoup de choses. Je dis beaucoup que Disney a volé l'enfance. C'est un magicien malin, qui n'est pas si bénin que ça.
Il a volé l'enfance. Depuis, il y a eu pire.
Oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est très étrange. Des scènes absolument désagréables qui attirent les gens parce que c'est souvent interdit sont autant aussi néfastes que des scènes agréables que tout le monde est obligé de voir pour former leur, disons, leur subjectivité, pour avoir les mêmes repères. Et il y a ce qu'on appelle des dictatures douces. C'est encore pire, parce qu'on ne peut pas se défaire, on croit que tout va bien. Vous savez, les parents, ils empêchent à l'enfant de faire certaines choses. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Alors que quand il s'agit de certaines dictatures douces, on envoie à l'enfant, on le pousse à le faire. On lui dit, fais ça, c'est bien. Alors que tout simplement, ça détruit la sensibilité, l'intimité, la singularité. Il n'y a pas de mémoire singulière. Et nous sommes ainsi faits tellement que dès qu'il y a un événement, nous voulons avoir la même conscience. Nous voulons... Que faisiez-vous, comme on dit, que se faisiez-vous au moment de la mort de Kennedy? Que faisiez-vous quand Mitterrand a été élu la première fois? Que faisiez-vous en mai 68? Que faisiez-vous? Que faisiez-vous? C'est toujours cela, comme si on était un troupeau.
Que faisiez-vous le 11 janvier ou le 8 janvier? Je ne sais plus.
Oui, je sais ce que je faisais le 11, qui n'est pas le 12. Oui, voilà. Oui, j'ai répondu ce que je faisais le 12 janvier, mais j'ai répondu sur 250 pages. Je n'ai pas répondu « Que faisiez-vous quand Kennedy est mort ?» J'étais dans ma cuisine et quand c'est arrivé, j'étais en train de préparer le repas pour les enfants. J'ai pris la peine de répondre sur 250 pages. Montrer la complexité de la mémoire, la complexité des émotions, et que c'était pas l'endroit où je me trouvais qui comptait seulement, c'est aussi ce que faisaient les autres. C'est ce qui m'entoure, les êtres comme les choses. Et ce serait bien, ce n'est pas mauvais de partir ainsi sur un acte collectif ou une information qui touche un grand nombre de gens, mais on me demande que faisiez-vous lors de la mort de Kennedy? J'ai dit, attendez, est-ce que vous avez 3 jours? Je peux vous répondre. Je ne suis pas juste comme ça à une question-réponse.
Alors, pour se libérer de tout cela, il y a un moment où vous dites qu'il faut protéger son temps intime contre le temps social et toutes ces injonctions qui arrivent de partout et la frénésie qui en résulte. Je suis désolé, je vais m'adresser à vous comme si vous étiez un auteur de livres de développement personnel ou autre, mais y a-t-il un début de méthode, quelques conseils qu'il pouvait donner pour protéger cette intimité? Que faut-il faire pour commencer à lancer ce processus qui peut mener très loin de désengagement?
Mais regarde, en parlant de situations collectives à laquelle on ne peut pas résister, qui semble irrésistible. et même si la proposition est néfaste, la chose qui semble le plus contraire à l'amour est un cadenas. Il y a là, juste en face de nous, un pont qui a failli s'écrouler parce que les gens ont voulu représenter l'amour par un cadenas. Et brusquement, tout le monde s'est mis... Dernièrement, j'étais à Rome et j'ai vu en face du Colisée, ils ont commencé, j'ai vu 15 cadenas. Et ouais, j'imagine, dans deux mois, ça va...
ça, les camions entiers. Oui.
Ça va être des camions de cadenas, parce que le Colisée, c'est aussi fort que le Louvre et l'Académie, ce sont des trucs, ils viennent. Est-ce qu'il est possible de se demander la question juste? Est-ce que l'amour peut être représenté par un cadenas, avant de poser le cadenas? Juste, c'est ce petit acte intime, ce moment, ces 10 secondes d'hésitation que je pense que j'essaie de dire dans ce livre et qu'on peut prendre. Si après on dit oui, on peut le faire, c'est moi je ne dicte pas les choses, mais juste se demander quel est ce besoin et de repasser et de voir le pont en situation difficile, mais de se dire ce n'est pas mon cadenas qui va le faire tomber. Mais oui, c'est votre cadenas qui va le faire tomber, parce que votre cadenas n'est pas un cadenas, c'est l'ensemble des cadenas. Chaque cadenas, ce sont tous les cadenas, puisque vous n'êtes pas un seul être humain, vous êtes un troupeau. C'est ça, c'est l'idée. Quand vous êtes dans le troupeau, vous n'êtes plus un seul être humain, donc votre raisonnement ne compte pas. De dire que ce n'est pas moi qui va faire tomber, oui, c'est vous, parce que vous êtes tous, vous êtes tous les autres. Donc c'est ça que je me dis, si peut-être on prenait 10 secondes pour certaines choses, on éviterait, on laisserait ça aux tout petits et qui ne savent pas bien que le pont peut être menacé par un cadenas.
Finalement, l'art presque perdu de ne rien faire, c'est l'art de réfléchir, de s'arrêter, de prendre 10 secondes, comme vous dites.
C'est ça, de ne rien faire un peu, de prendre... un moment avant de faire. Il ne faut pas tout le temps se précipiter dans l'activité.
Alors, pour résister à l'activité, on le sait, vous en avez fait l'éloge, il y a l'éloge de la sieste, l'éloge donc de la cuisine, de prendre son temps. Et puis, malgré tout, quand même, il y a la littérature.
Oui, aussi, lire, aussi.
Prendre le temps.
Oui.
C'est un remède, la littérature, l'art. Vous parliez d'Haïti, les poètes, les artistes.
Oui, absolument. Absolument. Ça vous structure beaucoup. Écrire, déjà, c'est un temps qui appelle le silence, comme lire aussi. Je me suis toujours dit que le bruit participe dans cet énervement qui traverse le monde. Et je crois que le moment qu'un écrivain prend pour écrire, quand on imagine qu'il y en a beaucoup, et surtout, je fais confiance à tous ceux, et je salue ceux qui écrivent en ce moment et qui ne seront pas publiés, ils font partie de cette grande cohorte de gens qui imposent le silence, en se l'imposant soi-même, et ceux qui lisent aussi doivent faire silence pour lire. Je crois pertinemment que ce silence obtenu par la lecture et par l'écriture, s'il n'existerait pas, le monde sauterait. C'est imaginer qu'il n'y a pas de livre, ni à écrire, ni à lire, et que tous ces gens-là soient tout le temps en train de parler comme les autres, et on aurait une explosion. Le livre, comme objet, aura servi à cela, à imposer le silence à des bavards.
J'ose à peine parler après cette... J'ai peur d'être bavard. Vous écrivez à juste titre que pour bien connaître un écrivain, il faut non seulement découvrir les livres qu'il a écrits, mais aussi accéder à sa bibliothèque. Je ne vais pas vous demander de découvrir l'ensemble de votre bibliothèque, nous n'avons pas le temps de toute façon, mais est-ce que vous pouvez nous parler de tel ou tel écrivain qui vous a marqué.
J'en parle dans oui. Ce livre-là, presque perdu de ne rien faire. Et pourquoi, des fois, j'ai la réticence à en parler, c'est pour plutôt parler de la lecture. Parce que je crois que de plus en plus, les gens, on leur demande, par exemple, de citer, mettons, 4-5 auteur qu'ils aiment, et les gens qui l'aiment, lui, finissent par lire ces livres-là, alors que le monde devrait être plus différent. Et souvent, d'ailleurs, même pour lire un livre, quelqu'un vient me dire « Ah, monsieur Laferrière, j'ai lu votre livre, il y a ceci, cela. » Mais j'ai envie de lui dire « Mais parlez-en à votre voisin, moi je le connais ce livre-là. Il n'est pas fait pour que vous m'en parliez, il est fait pour que, vous, que deux personnes qui ne l'ont pas écrit en parlent. »
La prochaine fois, j'invite votre voisin, alors.
Absolument, absolument. Oui, oui, il est fait pour que deux personnes parlent. Parce que la lecture est quelque chose d'aussi, n'est pas subalterne à l'écriture. C'est quelque chose d'aussi important, c'est un acte aussi mystérieux que l'écriture. Et je crois souvent même, je dis que quelqu'un qui est en train de lire un livre fait un acte plus subversif que écrire ce livre. Écrire, on peut toujours aller avec sa sensibilité, avec ce qu'on a connu, ce qu'on a lu, je l'ai dit là, et tout ce qu'on a vécu. Mais lire quelqu'un qu'on ne connaît pas, et prendre la chance de pénétrer dans un autre univers, c'est subversif. Normalement, on est constitué pour être égoïste, pour ne voir que le mouvement qui nous intéresse. Et là, brusquement, on fait ce pas. Et des fois même, il arrive... Qu'on va lire un livre que personne d'autre n'a lu. Une manière à signaler un peu plus. Et non ceux qui lisent les mêmes livres, les mêmes best-sellers. Donc c'est extraordinaire. Quelqu'un qui lit quelqu'un d'autre, alors qu'il n'arrive pas à lire les 3 pages de lettres que sa mère lui écrit. Et il lit 600 pages d'un inconnu. Et il rentre dans une intimité avec l'autre, qui est une intimité avec lui-même. Donc il y a des mouvements intérieurs que j'estime plus bouleversants, même qu'écrire ce livre. Donc pour moi, je préfère parler de cela, qui donne goût à lire, que de dire un livre et d'avoir peur que des personnes se précipitent pour aller le lire, alors que je ne voudrais pas qu'on lise des livres que je dise. Et je ne voudrais pas qu'on cherche à deviner ma sensibilité. Je préfère qu'on devine, qu'on recherche sa propre sensibilité. Mais donner le goût de lire, oui. Ça, j'ai envie. Et c'est la fringale de l'alphabet. On se lève et puis on a juste envie de voir des mots imprimés. Juste, on est prêt à lire tout simplement. Et ça, c'est important.
Donc, je n'aurai pas de nom d'écrivain. Tant pis, même si cette fringale de l'alphabet fait quand même penser à... Oh, écoutez, je peux quand même me permettre de citer Borges, hein. Je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'il est présent presque à chaque page.
Ah mais oui, et chaque livre, chaque livre. Oui, Borges, bien sûr, et c'est étrange, il est aveugle. C'est un aveugle argentin qui a vécu à Buenos Aires, mais qui a vécu en fait dans sa bibliothèque, d'ailleurs il le dit lui-même. Et je suis rentré enfant dans la bibliothèque de mon père et j'en suis ressorti 50 ans plus tard. Et il a vécu dans ce monde de mots, de lettres, de signes, de métaphores, de poésie, de récits, de linonga, enfin de musique aussi. Et parce qu'il a une bonne oreille comme la plupart des aveugles. Et cet homme a inventé quelque chose qui m'a passionné, c'est l'érudition merveilleuse. Quelque chose de si poussiéreux parfois que l'érudition. Et il raconte les livres qu'il a aimés, les gens qu'il a rencontrés, les lectures, tout ça avec un tel enthousiasme. Et il fait se connecter, se rapprocher et même dialoguer des écrivains morts. Et il le fait avec tellement de force, de conviction qu'ils sont vivants. Et en effet, qui d'autre qu'un écrivain mort ? Qui est plus vivant qu'un écrivain mort ? Puisqu'on peut ouvrir son livre, il devient vivant. Non seulement il est vivant, il nous impose le silence. Il nous impose de l'écouter. Qui peut faire ça ? Alors que nous n'écoutons presque plus personne, mais nous écoutons bien un écrivain mort qu'on a aimé. Donc c'est cela. Pour Borges, la bibliothèque est un cimetière où les morts pensent, parlent, discutent, dialoguent et imposent leur jugement à des vivants.
Écoutez, c'est tellement beau que je vous propose que ce soit le mot de la fin, que chacun arrête de parler, moi en premier. Je me contenterai donc de rappeler
le titre de votre ouvrage, qui est en soi un programme. Dany Laferrière, de l'Académie française désormais, L'art presque perdu de ne rien faire. Ça a été publié chez Grasset. Et pour voilà, tous ceux qui ne veulent plus perdre leur temps à faire des choses, il faut se plonger rapidement dans ce livre. Mais ce n'est pas une injonction, chacun fera comme il veut.
Merci à vous.